Le journal présenté par Caroline Félix.
Bonjour à tous. Aucun accord de cessez-le-feu en vue. En Ukraine, le sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump n'a pas donné lieu à une avancée précise. Le président américain met à présent la pression sur Volodymyr Zelensky pour accepter un accord. Et puis côté russe, quel bilan tirer de ce sommet ? Vladimir Poutine semble avoir gagné du temps. Analyse avec notre correspondant permanent à Moscou. Une grande partie de la France continue de suffoquer. Touché par la canicule, difficile à supporter pour les organismes, mais aussi pour l'économie. Explication à suivre. Quel résultat pour le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine? Il y a eu cette image de l'accueil solennel en Alaska avec une poignée de main chaleureuse sur le tapis rouge entre les deux hommes. On sait aussi que les deux délégations se sont parlé pendant 3 heures, mais on n'en saura pas plus. Pour l'instant, aucun détail n'a été donné aux journalistes. Peu après, sur Fox News, le président Trump est revenu sur cette rencontre avec Vladimir Poutine et il a renvoyé la balle à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.
Nous avons passé près de 3 heures ensemble et c'était très approfondi. Nous sommes d'accord sur de nombreux points, sur beaucoup de points même. Après, il y a 1 ou 2 points assez importants où nous ne sommes pas d'accord, mais je pense qu'ils peuvent être réglés. Vous savez, ce n'est pas encore un accord conclu, mais l'Ukraine doit l'approuver. Le président Zelensky doit l'approuver. Et je dirais aussi que les pays européens doivent s'impliquer un peu plus. Mais au final, c'est au président Zelensky de décider. Maintenant, si c'est le souhait des deux pays, je serai présent à la prochaine réunion. Le président Zelensky et le président Poutine vont organiser une réunion, et sûrement avec moi-même également. Non pas que je veuille y être à cette réunion, je ne veux pas m'imposer, mais je veux m'assurer que cette réunion soit menée.
Et Donald Trump n'a manifestement rien obtenu de concret pour l'instant, mais vu de Moscou, le bilan n'est pas le même. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Caroline.
Vous êtes
effectivement.
Vous êtes le correspondant permanent de Radio France à Moscou. Et donc, on l'a dit, Vladimir Poutine n'a pas été très précis sur le contenu des discussions, mais le président russe a probablement quelques motifs de satisfaction ce matin.
Oui, il a clairement marqué des points lors de ce sommet, Vladimir Poutine. D'abord, il a éloigné la perspective des sanctions dont le menaçait encore Donald Trump il y a seulement quelques jours. Ensuite, il a apparemment enterré définitivement l'idée d'un cessez-le-feu inconditionnel qui était pourtant l'exigence de départ du président américain. Enfin, il a retrouvé une stature internationale symbolisée par cette phrase en anglais, c'est très rare chez lui, lancée à Donald Trump, « Next time in Moscow », la prochaine fois à Moscou, lançant en direct donc l'invitation à son homologue américain. Le Kremlin a apparemment dû renoncer au volet économique des négociations en Alaska. Le déjeuner de travail prévu n'a pas eu lieu, mais il a apparemment sauvé l'essentiel du point de vue de Moscou en renvoyant la balle dans le camp de Kiev. Vladimir Poutine continue de poser le règlement de ce qu'il appelle les causes profondes du conflit comme préalable à la paix, ce qui semble indiquer qu'il n'a pas vraiment infléchi sa position. Et d'après son conseiller diplomatique, Yuri Ushakov, la perspective d'un sommet à trois avec Volodymyr Zelensky n'a même pas été évoquée en Alaska.
Merci à Sylvain Tronchet depuis les locaux d'ici Orléans. Et puis on l'apprend à l'instant, la Russie a lancé 85 drones et un missile sur l'Ukraine pendant la nuit, au moment même où ces discussions se tenaient en Alaska. La plupart ont été abattus par l'armée ukrainienne. Si un affrontement nous est imposé, nous y sommes prêts. L'avertissement de Naïm Kassem, le chef du Hezbollah au Liban, il prend le gouvernement à partie alors que le ton monte. Le mouvement chiite doit rendre les armes difficiles à fin de l'année, mais le Hezbollah refuse. Il accuse les autorités libanaises de vendre le pays à Israël, qui est toujours présente dans une partie sud du territoire. Au Pakistan, le bilan humain de la mousson s'alourdit d'heure en heure. On compte désormais 320 morts lors des deux derniers jours. C'est la région montagneuse à la frontière avec l'Afghanistan qui est la plus touchée. Les affrontements se poursuivent en Serbie pour le 4e jour de suite. Des manifestants hostiles au gouvernement se sont opposés à la police à Belgrade hier. Des dizaines de personnes ont été blessées ou arrêtées depuis le début de la semaine. Les manifestations pour dénoncer la corruption sont fréquentes en Serbie depuis novembre et l'effondrement d'un auvent en béton dans une gare du nord du pays. L'accident avait fait 16 morts et les manifestants l'impute à la corruption. Air Canada annonce la suspension de 700 vols ce samedi à travers le monde. En cause, une grève des hôtesses et stewards de la compagnie aérienne pour réclamer de meilleurs salaires. Elle commence aujourd'hui. 130 000 passagers sont concernés par ces annulations. Neuvième jour de vague de chaleur en France. Elle régresse, mais 54 départements sont toujours en vigilance orange canicule ce matin. C'est la deuxième vague de canicule pour cet été. Ces épisodes pourraient coûter cher aux économies européennes. En France, la canicule de juin aurait déjà coûté jusqu'à 0,3% de PIB, Annabelle Grelier.
Partant de chaleur extrême, c'est toute la productivité d'un pays qui ralentit. Des chantiers qui s'arrêtent, des usines qui réduisent leurs heures de travail, des crèches et des écoles qui ferment, désorganisant les salariés. Une journée de canicule à plus de 32 degrés serait l'équivalent d'une demi-journée de grève, résume une note d'Alliance Trade datée du 1er juillet dernier. L'économie, c'est aussi l'agriculture et les fortes chaleurs entraînent des pertes de rendement. Les canicules qui ont frappé la France depuis le début du printemps auraient par exemple déjà coûté 0,3 point de PIB, soit près de 9 milliards d'euros à l'économie française, selon une estimation publiée par l'assureur. La canicule coûte aussi très cher en dépenses de santé. Les organismes sont mis à rude épreuve, les services de santé sont plus sollicités au moment où le personnel est en nombre réduit. Le coût du réchauffement climatique sur nos sociétés est aujourd'hui largement documenté. De nombreuses études sortent chaque année pour alerter les gouvernements. Il faut s'attendre, selon le GIEC, à ce que ces phénomènes soient de plus en plus fréquents et de plus en plus intense. Les grandes villes qui produisent près de 3/4 du PIB européen risquent d'ailleurs d'être les plus affectées. Selon un rapport publié par les experts de la Banque mondiale, dans les villes européennes, le PIB pourrait ainsi baisser de 2,5 points par an d'ici 2050, rien qu'à cause des vagues de chaleur.
Des explications d'Annabelle Grelier. Et puis la météo, donc on vient de le dire, 54 départements concernés par la vigilance orange pour canicule. Des averses orageuses sont attendues cet après-midi dans les Vosges, le Jura, à la frontière italienne et en Corse. Par ailleurs, l'Aude, la Drôme et le Vaucluse sont placés en alerte rouge pour les feux de forêt.